Merci d'être avec nous dans cet atelier qui souhaite identifier les facteurs d'une transmission réussie, puis plus, de façon plus rigolote, comment ne pas léguer des souliers trop grands pour la suite. Alors, c'est une idée qu'on a eue parce que c'est sûr que la planification, la préparation des plans de relève, la relève en général dans nos entreprises, on sait que il y a une partie de nos diffuseurs qui, tranquillement, pas vite, marchent vers la retraite parce qu'ils ont été des bâtisseurs, ils ont été là depuis un moment pour construire cet écosystème qui est le nôtre, mais en même temps, espèrent peut-être à des jours plus tranquilles dans les années qui viennent. Mais aussi, c'est vrai pour des gens qui peuvent avoir fondé leur propre agence, peuvent avoir fondé leur propre compagnie de production. Donc, c'est toujours un enjeu comme ça, la relève, quoi faire pour transmettre, quoi faire pour bien documenter ou garder une mémoire institutionnelle ou une mémoire organisationnelle et la transmettre. Alors, c'est moi qui vais animer cette discussion, ce panel avec les intervenants que vous voyez, parce que c'était une question qui me préoccupait beaucoup et dont Rideau souhaite traiter dans les prochaines années. J'ai aussi pensé à ce thème-là parce que, vous l'avez vu, ce panel est présenté en collaboration avec la Fédé Chanson, et la Fédé Chanson qui est représentée ici par Céline Fuchs et qui se penche aussi de l'autre côté de l'Atlantique sur ces mêmes questions de transmission de mémoire organisationnelle. Alors, c'est intéressant pour nos deux organisations de pouvoir travailler. Céline, je vais te céder la parole pour, dans quelques instants, je vais présenter tout le monde et rendu à toi, tu pourras nous expliquer un peu où vous en êtes avec la Fédé Chanson. Donc, je vais y aller tout de suite. La façon dont on a souhaité fonctionner, c'est d'avoir quelqu'un vraiment qui est habitué de fonctionner et d'accompagner des organismes en transition ou en gestion de changement, mais aussi de confronter un peu cette réalité-là qui est peut-être plus théorique avec des vrais exemples qu'on a vus qui soient donc parmi nos membres et pouvoir, en fait, qui nous témoignent de leur expérience. Alors, je vais vous présenter tout de suite Julie Quentin, qui est CRHA ACC et qui est présidente de Evoluo, qui offre des services conseils d'accompagnement aux organisations qui vivent des transformations de la gestion et de croissance ou encore de l'acquisition. Donc, merci d'être avec nous, Julie. Il y a, bien sûr, que vous connaissez tous sans doute, Evelyne Chagnon, qui est directrice générale adjointe à la corporation Diffusion Hector Charland, qui a débuté comme agente de communication en 2006, quand même, et qui a complété son DESS en gestion des organismes culturels et qui va venir nous parler un peu de son expérience à Diffusion Hector Charland. Merci d'être avec nous, Evelyne. Nous avons Alexandre Sears-Provencher, qui est directeur général et artistique au Théâtre Desjardins, de la salle, celui-là, parce que les Théâtres Desjardins, il y en a quand même plusieurs, et qui a une maîtrise en administration publique, dont, entre autres, la thèse portait sur ses compétences de gestion, de gestionnaire de haut niveau dans les organisations publiques, mais qu'il a aussi adressé pour notre secteur, donc en direction artistique et en direction générale. Et je vous l'ai dit, donc Céline Fuchs, qui est directrice de la Fédé Chanson, qui est un réseau international de structures qui sont des festivals, des lieux de diffusion et des producteurs qui œuvrent dans le champ de la chanson d'expression francophone et qui contribuent à la structuration et la professionnalisation de la filière chanson. Ah, c'est ça qui est écrit sur ton site, Céline. Alors, je vais commencer tout de suite, juste que tu nous expliques un peu quelles sont les réflexions qui ont été menées jusqu'à maintenant à Fédé. On va partir de là et ensuite, on va voir comment on continue avec ça.
Bonjour à toutes et tous. Effectivement, Fédé Chanson s'intéresse depuis 2 ans à peu près à la question de la transmission. Le point de départ de cette réflexion est venu vraiment d'échanges collectifs au cours desquels ont émergé un certain nombre de problématiques rencontrées par les structures adhérentes. La première problématique, c'est effectivement le renouvellement générationnel. On a un certain nombre de départs de fondateurs et fondatrices, principalement fondateurs, que ce soit fondateurs d'événements ou de structures de production notamment. Voilà, comment ça se passe, quelles sont les problématiques auxquelles les uns et les autres sont confrontés, etc. Donc ça, c'était une des problématiques. Ce n'était pas la seule. Il y avait également la question de la mobilité professionnelle accrue qu'on constate principalement depuis le Covid, mais pas uniquement, mais en tout cas, ça s'est accentué fortement depuis cette période-là, et les difficultés de recrutement qui sont rencontrées par nombreux d'entre nous. Il y a également les transformations des outils de travail et des modalités de travail, le développement du télétravail, le développement des outils numériques et digitaux, qui sont des problématiques, en tout cas, qui sont enfin, qui pose des questions et voire des problèmes et auxquels on avait envie de réfléchir collectivement. Donc on a abordé cette question en essayant de s'appuyer sur des ressources extérieures à notre secteur. On avait envie de se détacher de l'affect que tout ça peut susciter chez les professionnels de notre filière. Donc on est allé chercher un peu des éclairages ailleurs, notamment dans l'agriculture, mais également dans le domaine de la santé. Et puis on s'est nourri de ces réflexions-là, et puis on a travaillé les questions ensuite en collectif interne. Voilà à peu près ce qui s'est passé depuis 2 ans.
Parfait, on en saura un petit peu plus au fur et à mesure que le panel avance. Alors, intéressant, on voit que le sujet est vraiment dans l'air parce que pas plus tard que, je pense, à la fin de la semaine dernière, je recevais l'infolettre du CRHA, qui a toujours une petite infolettre hebdomadaire, et le titre d'un des articles qui figurait était « La planification de la relève des cadres, une approche durable axée sur l'humain ». Alors, je me suis dit, tiens, je vais lire ça quand même, c'est sûr qu'il y a des choses intéressantes. Et j'y lisais que seulement 29 % des petites entreprises ont un processus formel, ici, maintenir le mot formel, de planification de la relève des cadres, et que d'autres études démontrent que seulement 30 % des cadres supérieurs échouent au cours de leurs 18 premiers mois d'embauche, et qu'il y a 84 % plus de risques que des PDG recrutés à l'externe soient remplacés dans un horizon de 3 ans suivant l'embauche, et que 49 % des employés et des employées EIE quittant une entreprise le font en raison d'une perspective de manque de possibilités d'avancement professionnel. Je pense que toutes ces choses-là nous touchent de près ou de loin. Alors, je vais commencer tout de suite en m'adressant à notre expert invité, en lui disant justement que ton expérience d'accompagnement fait en sorte que, tu me disais, c'est pas rare que, malheureusement, ça se solde soit par un échec ou des grandes difficultés dans la planification de la relève. Donc, quels sont généralement les écueils que tu vois que, justement, les clients ou les gens que tu accompagnes peuvent rencontrer?
Ouais. Bien, en fait, c'est beaucoup le manque de planification, justement, donc d'avoir... Ça prend 10 ans à peu près, hein, changer une culture, c'est ce qu'on dit. Donc, de ne pas avoir préparé cette relève-là, d'avoir peut-être habillé un peu trop longtemps l'habit du déni, donc de ne pas accepter, de ne pas voir venir. Donc, ça fait qu'on a vraiment moins d'options. On se retrouve un peu coincé à la fin, donc à partir du moment où on pense que peut-être on devrait envisager, où on se demande, bon, qui va prendre la relève, on a moins d'options qu'on aurait pu avoir si on y avait pensé 10-20 ans avant. Alors, on y va avec le choix qui n'est pas nécessairement le mieux pour l'organisation, mais ce qui est disponible de faire. Puis, un grand niveau de démobilisation aussi. J'ai envie de reparler juste le modèle que Jean-François Berthelet a présenté ce matin, le 4 cadrans. Bien, on se retrouve là-dedans. Donc, on se retrouve avec un manque au niveau de la confiance, la reconnaissance. Donc, il y a plein de choses qui sont impactées, là, effectivement.
Puis, intéressant de savoir que les cadres supérieurs recrutés à l'externe, parfois, vont quitter dans les trois premières années. Est-ce que c'est aussi une statistique que tu sens qui fait écho chez toi?
Oui. Bien, si on ne planifie pas, on ne prend pas les moyens pour les accueillir. On ne prend pas, donc ils ne sont pas attendus nécessairement. Il n'y a pas de plan pour eux. Donc, ils arrivent. Puis parfois, c'est le chaos si on ne l'a pas planifié ou on a de grandes attentes envers eux. Donc, c'est comme vient sauver un peu vient sauver notre projet, vient nous aider à remettre en place. Donc, on manque un peu de structure justement pour les accueillir. Ouais.
Donc, planification, première chose. Si on décortique un peu, qu'est-ce qu'on doit commencer par essayer de planifier? C'est sûr que tu nous dis dans un horizon idéal, c'est 10 ans. Évidemment, c'est dans un idéal, mais vous verrez que des fois, l'idéal, ça se concrétise. Donc, quelles sont les premières actions qu'on peut mettre en place quand on commence à réfléchir à sa relève ou, à tout le moins, à la suite des choses?
À la suite, oui, c'est ça. Bien, d'abord, la première chose à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut pour l'organisation? C'est sûr que quand on a le temps, bien, on peut se permettre de réfléchir sur est-ce qu'une fusion, est-ce que j'ai des partenaires autour avec qui ça pourrait être intéressant de s'associer, de travailler? Donc, de revoir le modèle peut être quelque chose d'intéressant aussi, tout comme bien, une relève, est-ce que c'est quelqu'un de l'interne, quelqu'un de l'externe? Donc, de vraiment réfléchir, c'est quoi mon plan? C'est quoi le plan idéal pour l'organisation que j'ai construit? Donc, ça, c'est certain que ça commence à être la première étape, en fait. Puis, évidemment, je vais le répéter au moins 250 fois, mais de planifier. Donc, à partir du moment où on a une idée, c'est vraiment de le concrétiser, puis d'y aller en étape pour le mettre en œuvre, finalement. Ouais.
Une des choses importantes aussi dont tu me parlais lorsqu'on a, on a regardé un peu comment s'organisait la conférence, c'était peut-être de commencer par faire une analyse d'impact.
Ouais.
Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Donc, comment tu vois ça, une analyse d'impact? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
En fait, si je reprends l'exemple, c'est de préciser. Bon, c'est quoi l'avenir? Comment je vois l'évolution de l'organisation, puis de l'organisme, puis en fait, quelle option je prends pour... c'est quoi notre vision qu'on a, puis qu'est-ce qu'on décide de faire? Puis ensuite, on est capable de venir identifier les différents impacts que peut avoir cette décision-là. Donc, exemple de relève, parce que c'est ce qu'on a ici avec nous dans le panel, mais donc de voir qu'est-ce qui peut se passer, où sont les risques si je ne suis plus là.
Ouais.
Donc, d'essayer de poser la question, où je mets à risque mon entreprise et voir les différents impacts que ça peut avoir. Qu'est-ce que je possède comme compétences ou quels sont les processus qui vont être modifiés? Donc, tout ça a un impact sur l'organisation, puis c'est ça qu'il faut venir rapidement déterminer pour prendre des actions. Donc, ce n'est pas juste de passer à l'action, c'est de prendre des actions sur des chantiers qui sont bien précis puis qui vont être liés aux impacts. C'est sûr si on pense à l'impact humain là, qui est relié à ces décisions-là.
Il y a de l'impact, évidemment, sur les humains, tu viens de le mentionner. Il va avoir nécessairement des impacts sur les processus. On en parlera plus tard. Je me tourne ici vers Evelyne parce que c'est intéressant de savoir que, bon, Evelyne, je l'ai dit tantôt, tu as commencé avec Hector Charland en 2006. Alors, si tu nous parles un peu de ton expérience, ce que Julie vient de nous exposer, donc cette analyse-là un peu des impacts, ce plan à long terme, c'est quelque chose que toi, tu as vécu. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu, dans le concret, comment ça a commencé par se mettre en place, donc si tu remontes dans le temps?
Oui. Bien, en fait, j'ai effectivement commencé en 2006, temps plein après mes études, mais j'ai commencé comme étudiante en 99. Fait que l'organisation, je la connais bien. J'étais évidemment une étudiante très motivée, étudiée dans ce domaine-là. Puis, rapidement, j'ai montré de l'intérêt pour des nouvelles responsabilités, en apprendre toujours plus. Identifié par Claude de Grandpré, qui est à la direction générale, qui, lui, de son côté, est en discussion, préoccupation avec le conseil d'administration aussi pour, toujours dans l'idée, si cette personne-là n'est plus là, est-ce que l'organisation fonctionne bien? Donc, déjà, de partir de cette prémisse-là, de s'assurer qu'il y ait d'autres employés, d'autres personnes dans l'équipe qui sont capables de notamment faire une programmation. Fait que c'est un peu ça qui a parti le projet de transition. Et nous, pendant quelques années, de 2006 à 2013 environ, on a été plus dans une dynamique informelle, où j'étais en apprentissage de nouveaux projets, de nouvelles responsabilités. C'est vraiment en 2013 qu'on a ouvert un poste de direction générale adjointe. Puis l'ouverture de ce poste-là était vraiment dans un... C'était une stratégie de communication aussi pour toutes les parties prenantes, pour identifier cette personne-là, c'est la relève de l'organisation. On va travailler ensemble pendant quelques années pour s'accompagner. L'organisation avait aussi des projets de développement. On savait qu'on allait évoluer encore, donc on voulait se donner du temps dans cette transition-là. Et on est à quelques mois de finaliser cette fameuse transition.
Donc, vous êtes l'incarnation d'un 10 ans de planification. Si on prend 2013 à 2023, moi, je pense que c'est quand même impressionnant. T'sais, on va saluer ici la vision de... de notre ami de Repentigny et de l'Assomption. Alors, donc, vous avez commencé à penser à ça. Tu me disais qu'une des premières choses qui a été identifiée rapidement par Claude, c'est, parce que tu en parlais, identifier ce qui est critique. Donc, là où je ne suis pas, qu'est-ce que je mets en péril? Pour vous, ça a été assez clair rapidement, c'était la programmation.
Oui.
Donc, c'est Exactement. Par là que vous avez commencé.
Oui, c'est parti d'un intérêt personnel, évidemment, puis de connaître tout ce milieu-là. Il y a notre milieu régional, il y a notre milieu interne, notre équipe, mais il y a apprendre à tout le réseau de la diffusion. Donc, rapidement, de tomber dans cet apprentissage-là et ultimement, c'était aussi pour s'assurer que l'opérationnel est géré. Parce que dans une transition, on ne veut pas cette coupure-là de l'opérationnel, on veut que ça continue. Donc, c'était la première étape de notre plan. Parce qu'on n'a pas eu de plan, le plan, il était établi, mais pas écrit parce qu'il faut laisser de l'espace. Ça ne peut pas être aussi défini que ça. Mais l'idée, c'était vraiment d'y aller une étape à la fois, une bouchée à la fois. C'est un choc pour une nouvelle personne, pour une, quelqu'un qui prend un poste de direction. Donc, c'est important d'y aller une étape à la fois. Donc, on a fait processus de programmation. Ensuite, on a évolué à tout ce qui est le financement, les relations avec les subventionneurs. Ensuite, on est allé vers une intégration invitée au sein du conseil d'administration pour arriver ensuite à la gestion globale financière de l'organisation. Puis, on est rendu dans les dernières étapes d'intégrer toutes les relations politiques avec le milieu. Fait que, une étape à la fois. Puis tout ça pour aller chercher une adhésion de l'équipe, de vraiment s'assurer que... Bien, que cette relève-là, elle est aussi acceptée de l'interne, du conseil d'administration et des différents partenaires.
Ce que j'entends, puis ce que je remarque aussi qui est intéressant, c'est cette communication-là qu'il y a aussi avec, dès le départ, tu me corrigeras si je me trompe, Évelyne, mais avec le conseil d'administration. Donc, les choses ont été nommées assez tôt avec le conseil d'administration. Donc, ça, j'imagine que ça fait aussi partie des premiers... des premières conversations à avoir déjà sur la suite des choses. Que se passera-t-il après moi ou la personne qui pose la question? Donc, c'est important, ça, oui, de le nommer.
Oui, tout à fait. Puis, souvent, ce que je vais voir chez nos clients, c'est la peur de l'adresser parce que, justement, c'est pas cané, tu viens de le dire. Donc, les choses évoluent, les choses... Donc, tu sais, il faut se permettre d'annoncer, d'être clair. L'humain a horreur du vide, hein? Donc ils sentent que les choses se passent, on ne le dit pas, donc ils vont combler ça de préoccupations, de perceptions. Donc mieux vaut adresser, mieux vaut le communiquer, puis les gens ont envie que ça fonctionne, ont envie de... Je serais intéressée de t'entendre là-dessus, mais tu sais, les gens ont envie que ça marche, donc de ne pas avoir peur de communiquer un peu à la fois, puis d'adresser vers où on s'en va, ça permet d'impliquer aussi. Donc bref, effectivement, là, la communication... C'est le nerf de la guerre.
Une des choses, si on traite un peu, parce qu'on a, j'ai comme divisé en deux catégories cette gestion de risque, on appelle, parce que c'est comme ça que tu l'as nommé tantôt. Il y avait un peu le risque humain, mais il y avait aussi le risque au niveau des processus, de différents processus que l'organisation a à gérer. Et je vais revenir un peu à Céline là-dessus, mais en fait, c'est quelque chose aussi qui a été pointé par vos membres et vos adhérents, parfois qui sont des vrais processus opérationnels, mais qui sont dans des savoirs informels. Donc, on se retrouve avec des dirigeants qui, au fond, ont toute l'organisation dans leur tête. Je suis certaine que tu en as vu. Je suis certaine qu'il y en a ici aussi. Donc, ils ont tout ça quelque part. On verra quel genre de situation ça peut donner aussi, mais je pense que c'est quelque chose que vous avez rencontré aussi, Céline.
Oui. En préalable, je voudrais juste dire que on a travaillé sur un certain nombre d'idées reçues et on en a notamment accompagné par une ergonome avec laquelle on a échangé beaucoup. On en a fait tomber trois principales idées reçues. La question générationnelle, la transmission n'est pas qu'une question générationnelle. Ça l'est, mais ça ne l'est pas systématiquement.
Est-ce que tu peux développer ?
Mais c'est-à-dire qu'on imagine souvent dans l'idée de la transmission une personne plus âgée qui cède. Dans une perspective de départ. Or, c'est pas la seule problématique. La mobilité professionnelle entraîne des transmissions à deux générations équivalentes. La deuxième, c'est l'unilatéralité ou la réciprocité. La transmission, c'est pas je cède quelque chose à quelqu'un, c'est on construit ensemble une transmission. Et c'est important aussi de se le dire. Et le troisième point qui nous a particulièrement intéressé, puisqu'on est un réseau professionnel et qu'on défend le collectif, c'est la question d'un binôme ou d'une affaire collective plus large. Et on parlait des équipes, de la gouvernance, etc. Et ça, c'est important aussi de garder en tête que ce n'est pas juste une personne qui transmet à une autre personne. Voilà, ça, c'est juste un peu ce qui nous a nourri aussi dans la réflexion qu'on a pu mener à l'échelle de la fédération. En termes de modalités de travail, ce qui a été beaucoup soulevé, c'est la question de la réflexion de l'organisation interne des structures. C'est quels outils existent, comment je prends conscience de la réalité de mon métier et comment je le pratique, comment je découpe les étapes, les missions, comment je prends conscience de ce que mon métier, des missions et de ce que ça implique pour pouvoir le transmettre, en fait. Donc, j'ai du mal à le transmettre moi-même.
En fait, c'est le qu'est-ce que je... C'est un peu le qu'est-ce que je transmets, en fait.
C'est pas si simple. Quand on dit, qu'est-ce que c'est faire de la programmation, comment on le découpe? Est-ce que ça veut dire d'abord aller voir des spectacles ou alors d'abord penser le territoire, les publics, etc. et puis construire ce qu'on a envie de défendre, puis aller dans l'opérationnel, donc aller voir des spectacles, repérer, enfin voilà. Mm-hmm. Et c'est prendre conscience de... On va découper tout ça, en prendre conscience pour pouvoir réussir à le transmettre. Donc ça, c'est un gros, gros travail. Et c'est souvent ce qu'on appelle, enfin, c'est ce qu'on appelle les savoirs incorporés, puisque prendre conscience pour pouvoir transmettre. Voilà.
C'est intéressant parce que, comme je l'ai dit tantôt, des fois, ces savoirs incorporés, que je pense que j'ai appelé informels tantôt, mais ce n'est pas grave, ces savoirs incorporés-là qu'on ne couche pas sur papier ou à tout le moins qu'on ne documente pas dans notre organisation, qui sont parfois de multiples détails, des choses qui sont venues à force de faire son métier, on part, puis tu as tout à fait raison de dire que ce n'est pas qu'un processus générationnel, mais parfois c'est simplement, on est dans un, on l'a vu tantôt, dans un processus de mobilité de la main-d'œuvre beaucoup plus important que ce que ça a déjà été. On se dit que bon sang, des gens qui vont être à la direction générale pendant 30 ans puis 25 ans, c'est peut-être de moins en moins ce qu'on va vivre. Je t'envoie la balle, Alexandre, parce que, justement, toi, t'es arrivé un peu comme dans une... Ben, pas un peu, pas mal, dans une organisation où ces savoirs-là qui étaient incorporés, donc, dans la tête, littéralement, de la personne, ça t'est arrivé. Comment ça s'est vécu pour toi? T'arrives, puis tu prends les rênes. Alors, il se passe quoi?
Oui, mais en fait, je pense que je suis dans l'exemple à ne pas suivre. Donc, de tout ce que j'entends ici, effectivement, je suis arrivée à la Direction générale et artistique du Théâtre Desjardins, qui est située à La Salle, en août 2021. Puis la direction générale artistique qui me précédait est partie à la retraite au mois de mai 2021. Elle avait laissé 2 semaines d'avis, donc en disant qu'elle quittait pour la retraite. Donc, il y a eu un intérim. Mais là, ça faisait déjà 2 ans qu'il n'y avait pas de spectacle à cause de la pandémie, puis il n'y avait eu aucune activité qui avait été faite. Donc, moi, je suis arrivée en début août 2021. Puis, quand je suis arrivée, ben, la seule chose qu'il y avait, c'est un document Excel de 2 onglets. Premier onglet, les codes bancaires. Deuxième onglet, tout le nom des producteurs et des agents avec lesquels ils travaillaient, mais que je connaissais déjà. Donc, la première journée, ça a été mon équipe, qui était là à l'époque de 5 personnes à peu près. C'est qu'est-ce qu'on fait comme programmation cette année, puis c'est quoi nos activités. Donc, il n'y avait pas de planification stratégique, il n'y avait pas de politique organisationnelle, il n'y avait pas de stratégie de programmation. Donc, c'est là que j'ai vraiment réalisé que la transmission dans un poste de direction d'un lieu culturel, d'une association, est très importante parce que là, il n'y a pas de mémoire organisationnelle et des grands risques aussi pour l'organisation.
C'est ça. Cette organisation-là était à risque. Est-ce que c'est quelque chose que, justement, vous rencontrez souvent, ces savoirs qui sont incorporés, les gens qui ont l'impression que c'est correct, ça, la business fonctionne? Ben oui, on a un échéancier. Oui, on a un échéancier, donc on devrait être capable de se débrouiller avec ça. Là, l'équipe va fonctionner.
C'est arrivé, oui, souvent.
Oui,
souvent. C'est pas rare.
Comme si on se méfiait pas assez de soi-même.
Bien, on n'y pense pas. Puis c'est aussi parce que c'est facile pour nous. On est bon dans ce qu'on fait, on est habitué. Donc, bien souvent, on va minimiser tout ce qu'on fait, chacune de ces étapes-là. Donc, tu sais, tantôt, je parlais de documenter les processus, mais quand on se met à se questionner, comme Evelyne le mentionnait, dans le fond, c'est comme un peu 5 grands processus que vous avez décortiqués. Comment on fait pour les réaliser? Qui possède ces connaissances-là, comme tu le disais? Donc, c'est répandu partout. Donc, c'est quoi les incontournables pour arriver à faire ça? Donc, on se met à se questionner sur la documentation, mais effectivement, on part bien souvent avec pas grand-chose. Puis, il y a tellement plein de moyens qui sont mis à notre disposition pour le faire. Un fichier Excel, oui, un peu mieux documenté, idéalement, on a un petit peu plus d'onglets, mais des vidéos qu'on peut faire. Donc, l'idée, c'est d'avoir une mémoire collective, puis que ce soit plus facile de s'y retrouver, effectivement. Puis ça aide aussi, là, la volatilité de la main-d'œuvre. Bien, souvent, c'est très énergivore d'accueillir des nouvelles personnes. Donc, plus on a documenté, bien, moins on y met de temps. Hein.
Donc, des processus à documenter dans les différents champs de notre organisation. Ouais. Il y a aussi une espèce de petit tableau réflectif dont tu nous avais parlé, puis que je trouvais intéressant de partager, parce que c'est comme un outil hyper concret. Comment, justement, partir de « bon, ben je suis à la tête d'une organisation, puis il faut que j'arrive à une autre solution, là, que je veux pas te scooper. » Donc, je vais te laisser l'expliquer, parce que je trouve ça très parlant.
Oui, c'est vraiment fort simple, mais c'est un outil que j'utilise beaucoup avec les clients. 3 colonnes, je, nous, il. Donc, de se mettre dans ce processus-là. Donc, au départ, qu'est-ce que je fais? Comme on le disait tantôt, où je suis incontournable, je dois absolument être impliquée dans tel processus, ou encore, dans cette colonne-là, c'est qu'est-ce que je fais par moi-même que personne d'autre peut faire. Donc, de lister, puis d'être honnête avec soi-même. Donc, c'est là où est-ce qu'on prend aussi l'ampleur de ce qu'il y a dans notre tête. Donc, juste de le sortir, de l'écrire. La colonne suivante, c'est au « nous ». Donc, on le fait ensemble. Donc, je dois absolument participer, mais il y a d'autres personnes qui sont là. Donc, on vient lister chacune de ces activités-là. Puis, ça peut être fait à haut niveau, ça peut être fait vraiment dans le détail, pas de souci. Puis, la dernière étape, bien, c'est celle qu'on vise, c'est le « il ». Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui, je ne fais pas, qui est essentiel à l'organisation, puis ils le font tout seuls? Parfait. Donc, l'objectif, c'est de partir de ce tableau-là. Je parlais de planification, bien, c'est ça. C'est de dire, bien, OK, comment je passe l'ensemble des activités au jeu, tranquillement au nous, une après l'autre, une bouchée à la fois, pour me dire, bien, peut-être que dans 7 ans, dans 8 ans, 100 % will. Donc, c'est fort simple, mais c'est quand même assez puissant pour venir le réfléchir, puis de partir de là en disant, bon, bien, qu'est-ce qu'on se donne comme cible? C'est quoi le début, puis c'est quoi la fin? Une transition, ça a quand même une fin. On peut l'avoir en date, on peut l'avoir en activité, mais il faut quand même le réfléchir. Donc, ça permet de documenter, du moins, puis de se faire un plan de match après.
Tu l'as dit, d'avoir un plan de match, de le suivre. En fait, c'est un peu ce que vous avez vécu aussi de façon peut-être intuitive, mais tu l'as bien vécu, ce « je, nous, il ». Tu représentais le « L », en fait, toi?
Oui. Oui, ben on a vraiment fait cet exercice-là. Puis, ce que ça s'est fait sur quelques années, je l'ai mentionné, l'organisation a évolué. On a ouvert une deuxième salle de spectacle, une maison d'hébergement. Donc, quand moi, j'ai pris ce poste-là en 2013, l'organisation ne ressemble pas non plus à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, il y a eu toute cette évolution-là. Ça a amené aussi plein de nouvelles possibilités, des opportunités. Puis c'est devenu un projet aussi d'équipe. Ce projet-là collectif aussi, c'est plus seulement une transition entre Claude de Grandpré et moi. C'est rendu un projet d'équipe. Il y a un comité de direction qui s'est mis en place. Ça a vraiment structuré autrement l'organisation. Puis, quand on parle d'opportunités, ça, c'en est une. De laisser l'organisation évoluer aussi avec ce changement-là. Mais on est vraiment dans cette continuité-là du « je, nous, elle ».
Super. Oui. Je voulais revenir, justement, Céline, aussi dans la perspective des travaux que vous faites à la Fête des chansons. Tu parlais de gestion collective des savoirs. Parce que là, bon, vous êtes vraiment, avec ton Charlotte, vous êtes chanceux. D'abord, c'est une grande organisation. Vous avez eu quand même l'opportunité. Tu étais là, tu t'es pointé en disant, ben, il y avait des facteurs de réussite qui étaient quand même réunis. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, Alexandre, pour toi, vraiment, ces facteurs-là n'existaient pas. Par contre, je pointe un peu ce que tu disais, Céline, la notion de gestion des savoirs collectifs, la gestion collective des savoirs, en fait. Ce qui est intéressant aussi, donc, j'aimerais ça que tu me dises un peu qu'est-ce que vous tendez à mettre en place ou quelle est la réflexion là-dessus. Puis je pense qu'Alexandre, aussi, avec ton organisation de réseau, vous avez cette réflexion-là qui est... En fait, une manière de pallier qui peut être une façon de pallier à certains manques d'une organisation.
Effectivement, la question du collectif et de l'organisation collective du travail est vraiment une question cruciale. Donc, c'est à l'intérieur de la structure comment on organise des processus qui permettent aux informations de circuler, d'être partagées par les équipes, comment on tend vers plus d'horizontalité que de verticalité, comme ça pouvait l'être historiquement. Donc, ça, c'est vraiment des outils de travail, de circulation de l'information. Si on va un petit peu au-dessus, il y a la question de la gouvernance des structures, c'est-à-dire qu'une direction et des équipes, des gouvernances individuelles ou collectives, on a un certain nombre de structures adhérentes qui sont en train ou qui sont passées en coopérative, donc des modes de gestion coopératifs. Ça change vraiment les modalités et de interne, mais aussi de gouvernance, et donc ça rend les choses plus collectives à toutes les échelles, et il y a pas mal de témoins dans la salle parmi nos membres. Et puis, il y a évidemment la question des réseaux professionnels qui sont des espaces de formation, de rencontres, d'échanges de pratiques, de confrontation de pratiques et d'enrichissement des pratiques des uns et des autres. Et nous, évidemment, c'est ce qu'on défend. Nous, on n'a pas tant mis en place d'outils en tant que fédération. Par contre, on a créé les conditions du dialogue entre les adhérents pour pouvoir se nourrir des expériences des uns et des autres et construire dans sa structure, avec les spécificités de chacune des structures, des modes de gouvernance ou des modes d'organisation qui puissent être nourris d'expérimentation externe. Voilà. À l'échelle internationale, en plus, pour le coup, pour nous, ce qui, là aussi, est intéressant.
Absolument. Puis, c'est un peu ce que vous avez décidé de faire à Diffusion Intercentre, entre autres. Il y a beaucoup de ces processus-là, donc on est vraiment sur l'opérationnel que vous partagez, je crois.
Exact. Donc, après mon arrivée, j'ai voulu joindre un réseau de diffusion parce que le Théâtre Desjardins n'était dans aucun réseau. Puis, Puis, on a adhéré à Diffusion Intercentre. Et pour vrai, s'il n'y avait pas eu ce réseau très soutenant qui se partage aussi beaucoup d'informations au niveau des pratiques, des opérations, on ne serait pas rendu où est-ce qu'on est maintenant au niveau du Théâtre Desjardins, que ce soit des politiques internes, que ce soit des stratégies par rapport à la gouvernance, des comités de gouvernance, des idées au niveau de la programmation, des séries, etc. Donc, on se partage beaucoup, beaucoup ces informations-là comme entre directeurs généraux et directeurs artistiques. Puis ça fait vraiment une différence, ce partage-là, parce que dans notre cas, puisqu'on n'avait aucun outil de gestion, on était capable de s'en inspirer et aussi d'apprendre des bonnes et des moins bonnes pratiques de mes collègues. Donc, de mon côté, ça a été très, très, très bénéfique pour construire quelque chose que si je quitte un jour, ben, je vais pouvoir léguer et que ça sera bien construit.
Donc, oui, des beaux mandats qui remplissent, entre autres, plusieurs réseaux de diffusion. Là, je veux dire, on parlait du DIC parce que tu es au DIC, mais il y en a sûrement d'autres, et même à Rideau. Donc, ne pas négliger quand même ces éléments-là. Donc, si je résume un peu notre première partie, on s'est dit, OK, parfait, je veux possiblement penser à la suite. Donc, qu'est-ce qui arrivera après moi? Donc, identifier ce qui est critique, là où on a besoin d'avoir un savoir, à la limite, partagé et collectif, pour que l'entreprise ou l'organisme ne soit pas à risque. Ensuite de ça, identifier les autres processus qu'on veut tranquillement commencer à transmettre par un « je, nous » et « il ». Et avancer, communiquer son plan à son CA, le communiquer. Maintenant, ça va bien, c'est des processus, on met ça dans des beaux tableaux et tout ça. Puis là, arrive l'humain là-dedans. T'sais? Fait que là, il y a plein d'affaires qui ne fonctionnent plus tout à coup. Alors, parlons du risque humain, parce qu'il est quand même intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est pour les principaux drapeaux rouges que tu pourrais dire qu'on peut lever dans cette gestion du risque humain? Parce qu'il faut quand même prévoir des choses. T'sais, il y a des sensibilités, il y a une équipe à gérer, il y a, ben là, ma collègue, c'était ma collègue, puis elle est rendue mon boss, ça ne marche pas. T'sais, il y a tout ça qui s'en vient. Donc, c'est quoi les drapeaux rouges pour toi?
Ouais. Quand on se met en mouvement... Forcément, on passe à l'action, on se met en mouvement. C'est inévitable qu'il va y avoir des préoccupations, il va y avoir des perceptions, la crainte, ça peut amener certains conflits. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Puis c'est d'en être conscient. Puis en fait, à quelque part, on le veut, ça. Parce que s'il n'y a pas de réaction des gens dans l'équipe, c'est juste parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a quelque chose qui va changer. Puis, en fait, on ne veut pas ça. On veut provoquer, on veut faire réagir parce qu'on veut capter ces réactions-là. Puis c'est ça qui devient notre plan d'action. Comment les gens ont réagi? Comment c'est reçu 2-3 semaines après un message qu'on a communiqué? Donc, qu'est-ce qu'ils ont compris? Puis c'est le temps de rectifier. Donc, c'est ça qui nous permet justement de clarifier cette bouchée-là, de dire, bien, on se lance, on en parle, on vient capter qu'est-ce qui se passe, on réagit. Est-ce qu'on continue ce plan de match-là ou finalement on amène une autre activité? Donc, tu sais, ça nous permet d'être très agile à travers ce plan-là. Mais finalement, gérer le changement, c'est comme un processus de deuil, en fait. Tu sais, chacune de ces étapes-là, on doit les accepter. Donc, toutes les étapes de changement, qui sont la colère, qui sont le déni, le marchandage, donc tout ça, on le vit dans une situation de changement. L'objectif comme dirigeant, c'est d'avouer que chacune de ces étapes-là doivent être faites. Mais gérer le changement, c'est d'accélérer le moment où on a fini avec le deuil et on arrive dans les étapes, comme Evelyne le disait tout à l'heure, où tout le monde en fait un projet, mettre les mains à la pâte puis se sentir concerné.
Puis si tu avais un conseil, parce que bon, tu nous dis il faut planifier, il faut communiquer, il faut le dire, mais concrètement, là, moi, je me dis, OK, je décide que je vais m'en aller... dans 5 ans, mettons, là, de Rideau, là, j'ai une rencontre le matin, bonjour tout le monde, bon lundi, alors dans 5 ans, je vais m'en aller, je voulais vous avertir à matin, maintenant, dossier des communications, qu'est-ce qui se passe? Comment tu nous suggères, en fait, d'aborder ça? Je fais des blagues, mais tu sais, il y a quand même...
Outre que de m'appeler, là,
c'est oui, ça? Oui, c'est ça, outre que de t'appeler et d'avoir un accompagnant d'expert, comment on peut comme annoncer ça à notre équipe, surtout quand on est comme à 3-4 ans d'avance, là?
Oui, bien, en fait... Tu ris, mais à quelque part, il faut partir. Tu sais, il faut se jeter. Là. Comme tu disais, les premières étapes, ben oui, c'est très rationnel. Donc, on est là-dedans dans les plans. À un moment donné, on le sait. Il hein, y a un précipice, puis bon, on va sauter, puis faut vraiment le faire. Mais c'est sûr qu'il faut avoir une vision. Il faut avoir quand même un certain niveau d'information. Parce que là, oui, tu vas générer beaucoup de préoccupations. C'est sûr que c'est vraiment génial. C'est peut-être un peu trop. Donc, d'abord, c'est d'avoir une vision qui est très, très claire. D'où on s'en va, donc processus dans 5 ans. Donc, tu sais, de bien réfléchir à cette vision-là, à quoi ça va ressembler, vers où on s'en va, donner du sens, encore là, je parle beaucoup de Jean-François Berthelet, on travaille ensemble régulièrement, mais donner du sens à ce projet-là, à ce départ-là. Donc, vraiment de clarifier la vision pour soi, puis ça devient un peu comme notre plan de communication.
Parce que
aussi,
ça peut aussi, puis ça va insécuriser nécessairement des gens dans l'équipe, des gens qui nous aiment bien, des gens, mon Dieu, mais si je veux pas que tu partes, si tu t'en vas, moi je m'en vais, puis tu sais, il y a tout ça. Ouais. Donc, avoir déjà comme un chemin de tracé, de pouvoir l'exprimer, c'est quelque chose qui peut être très rassurant. Ouais. Comment ça s'est passé chez vous, Evelyne? Claude, là, il est arrivé, puis il t'a dit ça. Il a dit ça comment à son équipe, et je le vois, là, il est là, puis il sourit en arrière.
Bien, en fait, tu l'as nommé, il y avait quelque chose aussi de rassurant. Parce que, bon, quand tu vois que tout repose sur les épaules d'une personne en particulier, bien, il y a quelque chose d'à la fois rassurant sur l'équipe, la confiance est là, mais si Claude n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Fait que d'avoir un plan, un horizon aussi, puis d'être capable de se projeter dans le futur aussi avec une autre personne à la direction, bien, je pense que c'est un chemin pour l'individu qui amène des changements personnels. Puis la personne, ben peut-être qu'elle va décider de s'en aller aussi. Ça se peut que ça provoque ce changement-là. Mais aussi les belles possibilités. Ben, en fait, ça s'est bien passé de mon côté. Là. L'équipe, est quand même, il y a eu du mouvement dans notre équipe, mais du mouvement normal sur plusieurs années aussi. Puis qu'une nouvelle équipe se réinstalle au fil du temps. Puis c'est c'est beaucoup le temps, la communication, le respect, de partager ces détails-là, d'y aller une étape à la fois, puis de laisser la cohabitation faire son chemin, la cohabitation entre le prédécesseur et le successeur. Donc, parce qu'il y en a une, elle est là, elle est parfois... Parfois, il y a des zones inconfortables dans cette cohabitation-là, parce que pour l'équipe, à un moment donné, elle s'adresse à une, deux personnes, répète la même information. Ça amène des fois ces inconforts-là, mais l'équipe évolue dans ce changement-là avec toi aussi. Mm-hmm. Fait que ça devient, je me répète, mais que ça devient un projet d'équipe.
Okay. En fait, il y a deux cas de figure qui peuvent se passer. On a un plan, on entrevoit donc son départ. On n'a pas nécessairement de successeur attitré. Donc ça, c'est un cas de figure. Mais on ne sait pas nécessairement si dans notre équipe, il peut y avoir quelqu'un d'intéressé. Ou alors, peut-être que si c'était ton cas, tu avais déjà été identifié. Donc j'imagine que c'est quand même deux situations qui sont à traiter différemment. Donc encore une fois, je repose ma question. Si je veux... comment je pourrais dire, sonder l'intérêt des membres de mon équipe. Oui, tu sais, lundi matin, toujours, oui, bonjour, je m'en irai dans 5 ans, y a-t-il des intéressés? Tu sais? Donc, en fait, comment on fait, en fait, pour comme identifier quelqu'un ou poser cette question-là? Il va-tu encore une fois assez frontal en disant, bien, s'il y en a qui sont intéressés, vous le dites, je ne me vois pas là, un matin dire ça.
Oui, ouais. Ben, en fait, j'ai des entreprises avec lesquelles j'ai travaillé qui l'ont fait comme ça. Oui, parce qu'il n'y avait personne. Puis ça a été un processus bien balisé. Donc, à partir de là, ben, comment on va choisir? Donc, il faut être clair sur...
Puis il faut qu'il n'y ait pas apparence de favoritisme non plus. Donc, c'est ce cadre-là, comment on le gère, en fait? Qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil?
Bien, en fait, c'est de vraiment bien le baliser. Là. C'est bien le baliser dans comment on va le choisir. Est-ce qu'on va faire des tests, par exemple? Donc, ça, c'est quelque chose de très objectif qu'on peut choisir de faire. Il y en a plein qui existent sur le marché. Comment on va cibler à travers l'équipe ou comment on va détecter à travers l'équipe? Est-ce qu'il y a des gens qui potentiellement pourraient prendre la relève? Donc, c'est d'être clair sur les étapes. Donc, si vraiment on y va en manifestation d'intérêt, qui est intéressé? Vous avez jusqu'à telle date. Voici le processus. On va passer des tests. On va essayer des choses. On clarifie qu'est-ce qui va mener à cette décision-là pour qu'il y ait de la transparence. Puis, effectivement, pour pas qu'il y ait peut-être une perception d'un conflit d'intérêts.
On dirait qu'on est comme mal à l'aise avec cette... je ne sais pas vous, là, en avant de moi, mais moi, je me sentirais comme, mais là, Caroline, elle nous annonce qu'elle va partir dans 4 ans. Je ne sais pas, il y a comme quelque chose de... C'est comme si on ne voulait pas le dire, même si on y pense. Mais ça, dans le fond, c'est comme contre-productif.
Oui. Bien, puis ce n'est pas parce qu'on ne le dit pas que les gens ne le savent pas.
Ah oui, ça, c'est bon.
Les gens vont, sans doute. Puis en même temps, ils peuvent être... tu disais tantôt, il y a une instabilité qui vient, il y a une crainte qui vient en se disant, mais est-ce qu'on est bien organisé s'il arrive quelque chose? Donc, c'est aussi rassurant de savoir qu'on pense à ça, qu'on s'assure, parce que là, on parle de des projets, où c'est prévu, là, mais malheureusement, il arrive des incidents là, de la vie que du jour au lendemain, la personne n'est plus là. Donc, c'est quand même rassurant d'être dans une équipe puis de savoir qu'on se soucie de la pérennité de l'entreprise. Donc, on ne devrait pas avoir peur d'adresser ça. Mais effectivement, il faut bien le faire. Il faut le planifier, puis il faut bien l'organiser, puis de le communiquer. Ouais.
Mais là, encore une fois, tout ça, c'est le fun, c'est dans l'idéal. Écoutez, on a planifié, on a annoncé, on a fait, les mains se sont levées, on a passé des tests, vraiment, là, on était très bon élève. Puis finalement, un an avant que tu sois sur le point de concrétiser ton projet que tu travailles depuis 5 ans, la personne t'annonce que, ben écoute, sais-tu, je me suis trouvé un autre job ailleurs. Alors, la question qui tue, c'est, est-ce que il y a quelque chose, tu penses, que dans le processus pourrait ne pas avoir fonctionné? Puis je vais te relancer la question en disant, toi, ça t'es-tu passé par la tête par moment aussi? T'sais? Puis, même chose, je vais revenir à toi, Céline. Est-ce que c'est le genre de choses qui vous êtes, en fait, que vous êtes confrontée à ça? Parce que c'est ça qui arrive parfois. On a un beau plan et le plan nous laisse tomber.
Oui, bien, la première chose, c'est est-ce que la personne que l'on a ciblée est au courant? Parce que parfois, non, vous riez, ça arrive. Donc, c'est sûr que d'impliquer, évitons le secret parce que ça aide personne. On ne peut pas bien agir quand on a les mains liées. Le manque de transparence rend tout ça bien difficile. Donc, est-ce qu'on l'épaule? Est-ce qu'elle est soutenue? Donc, c'est toutes des choses qui vont venir minimiser le risque de départ, de se sentir appuyé là-dedans, de se sentir considéré, de savoir qu'on a la confiance. Puis, parfois, l'envers de la médaille, c'est qu'on vient montrer à l'équipe que la personne n'a pas de crédibilité. Donc, tu sais, à force de faire à sa place, de ne pas la soutenir, de ne pas la laisser aller, bien, les autres vont venir se demander, OK, mais là, est-ce qu'il y a vraiment confiance? Est-ce qu'elle est vraiment capable de le faire? Donc, de soutenir cette personne-là, d'avoir un plan détaillé, de l'épauler, de le nommer. Donc, c'est toutes des choses qui vont venir justement réduire le risque, vont augmenter la mobilisation de la personne en poste, puis aussi de l'équipe, bien évidemment. Donc, ça vient quand même diminuer ce risque-là de partir parce que ça a l'air mieux ailleurs. Là, donc, d'arroser un peu le gazon là, pour qu'il soit vert chez nous.
L'engagement. Je vais aller tout de suite à Céline. Je pense que ça fait quand même, excuse-moi, Evelyne, je sais que tu étais prête à répondre, mais je vais différer ta réponse un peu. Ça fait écho aussi, évidemment, dans vos structures puis dans les analyses et les recherches que vous avez faites, parfois cette démobilisation ou ces frictions. Je ne sais pas si finalement, est-ce que j'ai les rênes ou je ne les ai pas? Je pense que vous avez, c'est ressorti.
Oui, c'est ressorti. La transmission, ce n'est pas simple pour celui qui est le repreneur, entre guillemets. Ce n'est pas simple non plus pour celui qui cède. La question du deuil est un vrai travail et un travail qui doit se faire à l'échelle de la structure, mais aussi à l'échelle individuelle, parce que pour certains, ça a été toute une vie. Le rapport au travail de certains professionnels est intense. Vous devez le savoir, je pense. Et donc voilà, entre l'idée théorique et même pratique et la traduction de cette idée dans les faits, dans l'organisation interne, dans la transmission de la culture maison et le fait d'accepter de se mettre en retrait et puis de lâcher des décisions et puis petit à petit de confier les rênes puis d'accepter que ça aille pas tout à fait dans la direction qu'on avait imaginée parce que c'est ça aussi transmettre, c'est aussi accepter que les projets évoluent entre l'idée qu'on a nous et celle qu'on a envie, enfin ce qu'on constate. Voilà, c'est un gros travail. C'est un travail individuel et collectif à l'échelle de l'équipe, mais aussi vraiment à l'échelle individuelle.
J'aime bien ce deuil, en fait, lorsqu'on décide de vraiment s'investir dans sa transmission et éventuellement dans un plan de relève, ça implique des deuils. Ça, je pense que c'est peut-être la chose la plus difficile parce que tu l'as nommé. Pour beaucoup d'entre nous, il y a cette identité forte-là entre nous et notre travail et ou notre structure qui, parfois, on a créée de ses propres mains. Donc, il faut accepter de la laisser voir devenir autre chose. Tu m'en as parlé de ce processus de deuil-là, puis tu m'as parlé aussi, Evelyne, de ces entrecroisements-là. Et tu le nommais tantôt, des zones d'ombre, des zones d'inconfort, des zones de turbulence. j'aimerais que tu développes là-dessus. Ben, puis comment vous les avez atténués à tout le moins, comment vous avez traversé ça?
Oui, ben parce que, bon, évidemment, les deux sont dans une évolution. Celui qui cède, son rôle ne fait qu'évoluer aussi parce qu'il fait que tu transfères vers l'autre. Et effectivement, laissant aller, c'est beaucoup de lâcher prise hein, qui vient avec, donc lâcher prise des deuils, puis de laisser l'autre s'installer. Fait que je pense que dans d'être vraiment dans une posture de mentorat puis d'apprenant, c'est vraiment une clé gagnante dans la relation. L'autre aussi a des deuils parce que quand tu es, ben, dans mon cas, quand j'ai eu mon poste de direction générale adjointe, ben, c'est qu'on a travaillé aussi pendant plusieurs années dans une complicité, une complémentarité. Puis, il faut faire attention pour pas que cette complémentarité-là se fige aussi dans le temps. Parce qu'à un moment donné, ben, il faut que la passation se fasse, qu'elle soit complète. Fait qu'il y a des deuils pour l'autre aussi parce qu'on est habitué de travailler d'une certaine façon avec l'autre. On fait équipe, puis ben, cette étape-là, ben, elle va changer aussi. Fait que c'est d'accepter ce mouvement-là dans les deux parties. Puis, ben, c'est sûr que d'être très transparent, d'en parler. Bon, je pense que nous, on est dans une relation où on s'est dit beaucoup de choses, puis des fois, d'être en remis en question parce que tu l'as un peu soulevé la question. Ben oui, je me suis posé quand même la question à quelques reprises sur un processus de 13 ans. Est-ce que je vais reprendre la direction de diffusion avec Tar Charland, tu sais? Puis, sincèrement, les projets étaient là, étaient stimulants. Il y avait les défis qui venaient avec. Mais à un moment donné, j'avais ressenti besoin quand même de dire, écoute, si jamais, parce qu'on a notre relation, je veux dire, personnelle, professionnelle, puis je disais, si je reprends pas la direction, c'est-tu correct? Non, mais tu sais, je me souviens qu'à un moment donné, très tôt, parce que c'était déjà une pression de me dire, ouais. Hey, mon Dieu, c'est là,
c'était
là,
quoi
les
la
efforts.
Réponse?
Ben, la réponse pleine d'empathie et de respect, de reconnaissance, était, ben écoute, s'il y a d'autres opportunités, je vais être là pour toi, pour te soutenir dans tes autres projets, tu sais, puis... Il y aura d'autres plans. Je pense que plus tu donnes, plus tu planifies, puis tu orientes, puis tu sais, moi, je pense à quelqu'un qui investit tellement dans son organisation, mais il faut prendre le temps d'orienter comment ils ont envie que la suite se fasse aussi pour leur organisation. Fait que, entre nous, ça s'est bien fait parce que je pense que j'avais besoin de le nommer à ce moment-là. Ça me rassurait. Puis, je fais, ben, la suite, on la repart ensemble. Est-ce que lui, ça l'a insécurisé? On lui posera la question peut-être plus tard. Mais je pense qu'ensuite de ça, c'est quand, avec dans ce transfert-là qui s'est bien fait, qui était graduel, qui, oui, me permettait aussi de prendre confiance en moi puis de développer des nouvelles connaissances, ben c'était juste normal après d'arriver à cette conclusion-là entre nous. Mais il y a un deuil. Il y a un deuil certain.
Puis, il y a un deuil. Puis, quand on s'est un petit peu préparé pour le panel, on disait aussi qu'il faut accepter peut-être que la vision d'avenir de l'organisation n'est pas nécessairement celle qu'on a comme transmetteur, là, celle qu'on a portée en soi. C'est vraiment un projet collectif qui va se définir avec le successeur et son équipe. Donc, je vais revenir au facteur humain avec toi, Alexandre, quand même, parce que toi, tu as vécu, évidemment, un peu l'inverse, où tu as une structure où le personnel était, j'imagine, dans un état de grande insécurité dû à ce manque de transfert-là et ce manque de processus-là. Donc, peux-tu m'en parler un petit peu de ce facteur humain?
Bien, c'est sûr que c'est un facteur essentiel, important. Quand je suis arrivée, il y avait une équipe qui était fragile, pas de direction, pas d'activité non plus, donc qui est le cœur de l'organisation, pas d'outils de gestion non plus. Donc, c'est sûr que quand je suis arrivée, ben, il a fallu qu'on gère des urgences, puis on a géré pendant un an. Moi, je suis arrivée au mois d'août, comme je disais, puis le 1er septembre, ben, j'avais un bébé, donc j'étais en congé de paternité. Donc, finalement...
C'est vraiment un contre-exemple, c'est pour ça qu'on t'a choisi.
Oui, c'est ça, je suis vraiment... donc, puis moi aussi, j'ai quitté pour un petit bout à cause de justement du congé de paternité. Puis après ça, il y a eu la deuxième vague de COVID. Donc, c'était vraiment une année complète de chamboulement. Par contre, tu sais, sur quoi on s'est rattaché, c'est vraiment une vision commune. Donc, le travail qu'on a fait, c'est un travail qu'on l'a fait en concentré, qu'on a fait en très, très peu de temps. Donc, une planification stratégique, développer un énoncé de vision artistique, donc pour voir c'est quoi la couleur du Théâtre Desjardins au niveau de la programmation, au niveau de la gouvernance. On a revu les règlements généraux également, révision avec les partenariats avec la ville. Donc, on est vraiment avec l'équipe On est vraiment allé structurer là, ces facteurs-là importants, ces piliers. Puis on est allé aussi compléter l'équipe en définissant les tâches, les descriptions de tâches. On a ajouté, là, on est rendu à 14 maintenant employés. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qui, justement, on en parle un peu au niveau de la transmission entre directions. Mais pour moi, qu'est-ce qui est vraiment essentiel, puis je ne veux pas laisser, si je quitte éventuellement l'organisation, une organisation comme je l'ai reçue. Donc au moins, il y a deux personnes qui soient capables de faire la même tâche.
Que ce soit c'était ma prochaine question. Oui. Est-ce que tu as un plan de relève?
Je n'ai pas un plan de relève identifié parce que pour l'instant, avec le conseil d'administration, c'est nommé de toute façon. Puis c'est des choses maintenant que j'ai été capable de leur mentionner en disant que c'était très, très fragile quand je suis arrivé et je ne veux pas que l'organisation se retrouve d'un autre moment comme ça. Donc, eux, ils me demandent de travailler sur des organigrammes pour être sûr d'avoir des plans de relève pour chacun des postes, moi y compris. Donc, on est vraiment en train de disséquer, si je peux dire, là, toutes les fonctions de l'organisation, que ce soit les opérations, la technique, la programmation, pour avoir une équipe qui va être vraiment très, très soudée. Puis, on est vraiment dans cette passation-là, je pourrais dire.
Merci, merci. On arrive presque à la fin. Je voulais vous laisser l'opportunité de peut-être poser des questions. Si vous le souhaitez, sinon on peut encore continuer de parler un peu, mais évidemment, c'est toujours ce facteur humain, parce qu'on aurait pu dire, oui, mais qu'est-ce qui arrive? C'est après, on prend les rênes et on a toujours comme une espèce de belle-mère en arrière, là, tu sais, qui vient nous dire, parce que ça aussi, c'est, tu sais, on va se dire les vraies choses, là, ça aussi, ça existe, on pensait qu'on avait les deux mains sur le volant, puis que mais dans mon temps, puis on a vu ça avec Jean-François ce matin, oui, dans mon temps, on est jeunes. On fait quoi dans ce temps-là? Qu'est-ce que tu nous adresserais rapidement comme conseil à ceux qui pourraient peut-être avoir une petite tendance à...
En fait, le plan de transition, il touche l'organisation, oui, il touche la personne qui prend les rênes, mais on doit aussi, comme dirigeant qui s'en va, se faire son propre plan de transition pour, ouais, ben, pour s'occuper, donc au lieu de jouer le rôle de belle-mère, ben, de se dire, ben, c'est quoi maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais remplacer ce vide-là? Puis qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai un autre projet? Donc, tu sais, quand on reste sur le marché du travail, c'est une chose. Quand c'est un départ à la retraite, ben, comment je vais l'occuper ce temps-là? Donc, le plan de transition doit vraiment avoir ces trois éléments-là.
Puis, donc pour l'organisation, ouais, pour à la limite les employés, son équipe, exactement, mais aussi le plan de transition de soi-même, ouais, parce que c'est vrai qu'on pense parfois beaucoup, je m'en vais à ma retraite et tout ça,
ben, mais
c'est pas facile.
C'est les émotions aussi qui font qu'on veut rester, on est attaché, ça nous a occupé des années.
Puis on est des gens passionnés, on est dans un milieu de passionnés.
On veut que ça marche, on veut laisser une belle organisation aux gens qui sont là. Donc, ça vient vraiment difficile, puis c'est avec beaucoup de bienveillance, puis de bonne volonté, mais ça aide pas. C'est ça, malheureusement, ouais, non, ça aide pas toujours.
Et ce sont, j'imagine, parmi les principaux facteurs d'échec.
Oui.
C'est nommé.
Oui,
sachez-le. Donc, je vous dis, il reste, parce que je suis très dans les temps, 22, donc ça finit à être 30. Il resterait des questions, si vous voulez les adresser à une ou l'autre des personnes. Quelqu'un de courageux ici.
Voulez-vous que je m'avance au micro?
Je pense qu'on est assez petit pour que, si tu as une bonne voix, on puisse t'entendre.
Ben, moi, j'avais une question pour toutes les panélistes. C'est en cas, par exemple, de transition subie, par exemple, de cause de maladie ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez pensé de développer des plans de transition d'urgence pour assurer la pérennité?
En fait, on pourrait presque lui retourner la question. Est-ce que vous avez pensé à un plan d'urgence de transition subie? Ça serait peut-être un peu ça. Au fond, ce que je comprends de notre panel, c'est que c'est toujours bien d'avoir un petit document quelque part, parce que c'est exactement ce que tu as vécu qui était, Alexandre, un espèce de plan, pas d'urgence, un pas de plan d'urgence, en fait. Exact. Je ne sais pas si tu veux répondre à ça, Julie.
Oui, bien, en fait, ça arrive assez souvent. Là, je dirais qu'on est beaucoup là-dedans. Puis, tu sais, on peut commencer déjà à penser à comment l'organisation peut se mettre en mode pérennité. Donc, même si on se dit, moi, je ne suis pas prêt tout de suite à partir, je n'ai pas cette intention-là, comment je solidifie justement l'entreprise, l'organisation pour qu'elle puisse se passer de moi? Puis peut-être que dans 5 ans, on va réviser notre plan. Puis on se dit, bien là, c'est dans 2 ans, mais juste de se mettre en action. Mais oui, effectivement, ça arrive souvent, malheureusement, qu'on est en mode urgence. Puis là, ben, c'est de bien préciser. T'sais, c'est sûr que nous, on est allé avec un modèle dans l'idéal, puis je viens d'en parler souvent, mais donc c'est quoi qui est important? Puis malheureusement, il n'y a pas une réponse. Chaque chaque organisation a son ADN, a sa raison d'être, a les joueurs dans l'entreprise. Donc, je ne serais pas en mesure de dire commencer par ça, mais c'est sûr que je dirais c'est quoi la vision, c'est quoi les impacts, est-ce qu'on communique? Ça, c'est comme, c'est l'incontournable.
Pierre-David. Moi, je n'ai pas cette statistique-là, je pense qu'elle non plus, mais je pense que l'important, c'est peut-être de se demander pourquoi ça n'a pas fonctionné. T'sais, moi, j'inviterais peut-être à, je ne sais pas, là, je ne suis pas spécialiste, hein. Mais pourquoi ça a fonctionné avec toi, Pierre-David? OK, puis au-delà de ça, il y avait... En fait...
Bien, évidemment que ça fait écho.
Mais moi, je trouve que ça revient quand même à ce qu'on disait de quand on identifie, tu l'as nommé, tu sais, est-ce qu'on a une idée claire de la personne, mais pas juste en termes, tu sais, avec des points précis de ce qu'on cherche. Ça fait, entre autres, partie de la réflexion que tu avais faite, je pense, sur les compétences clés des dirigeants. Mais aussi faire passer à la limite des tests, voir se parler, bien communiquer, faire de l'empowerment. Donc, j'imagine qu'il y a quelque chose qui ressemblait à ça dans ce que tu as vécu, si ça a marché. Ah, déjà! OK. Mais je vois là des facteurs de succès. Tu sais.
Oui, c'est ça. Puis plus, tu sais, on parle de 10 ans, ça peut paraître vraiment très long, mais le fait d'avoir, de capter, donc ces deux personnes-là, ça risque d'accrocher. Donc, comment on va le gérer? Donc, on se permet ce temps-là de dire oui, ça, parce que c'est pas vrai que ça se passe tout bien. Là. Il y a des accros, mais si on le sait puis on l'a identifié, ben, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on va y arriver tranquillement pour que ça fonctionne? On se donne la marge de manœuvre, en fait, qu'on n'a pas souvent. Donc, les statistiques, je serais curieuse, je vais aller chercher, je ne les ai pas, mais.
Dans la statistique que j'avais de l'article, c'était quand même que les cadres supérieurs recrutés à l'externe quittaient dans les premières. 3 ans, là, donc il faudrait voir si on avait ailleurs la statistique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Moi, ça a tellement été long, le processus, mais en même temps, c'est bien structuré. Donc, à partir du moment où ça va être toi, est-ce que tu envisages déjà la suite, c'est d'avoir une co-direction?
Bien, la réponse, c'est oui. Oui, je pense que moi, je suis déjà très habitée par tout ça, puis déjà, que ce soit dans les processus, mais oui, en ce moment, ben on travaille pour qu'il y ait une... Tu sais, la relève, oui, il y a moi qui ai été identifiée, mais il y a un groupe. C'est un groupe aussi. Tu sais, il y a tout un comité de direction qui a été cette relève-là.
Oui. Te succéder, oui. Est-ce qu'il est déjà identifié et planifié?
Oui. Oui. Mais tu sais, puis dans la planification, dans le départ de l'autre, de Claude, dans ce cas-ci, on se donne un temps aussi identifié ensemble dans l'après. Pour justement pas avoir un retour de moi qui est dans le trou puis qui a besoin de revenir. Non, c'est structuré. On a des dossiers ensemble qu'on va revoir après.
Donc, finalement, tu as comme cadré la belle-mère, là, si je peux te dire. OK, je comprends. Donc, c'est elle a son jardin puis on peut faire appel à.
Bien, ça s'est fait quand même parce qu'il y a des dossiers entre nous, que ce soit maintenant juste le conseil d'administration, c'est moi en ce moment qui est répondante au conseil d'administration. Fait que oui, on le fait. Donc, parce que doucement, quand on passe du « je » vers le « elle », à un moment donné, c'est naturel. Fait que c'est plus de jouer un rôle de conseiller, de consultant. Puis c'est pas un exercice facile parce que, en ce moment, comme la structure n'est pas encore toute réglée, je veux dire, l'organigramme, ma cour est pas mal pleine en ce moment. Puis en ce moment, Claude, ben, qui a des excellents réflexes, pourrait avoir envie de venir m'aider. Puis il ne faut pas. Fait qu'en ce moment, on est dans cette fin de transition-là. Fait que quand on dit que c'est toujours en évolution, mais c'est nommé, c'est identifié, c'est on en rit ensemble. Mais c'est un parcours qui est bien, bien officiel. T'sais.
Il nous reste une minute, ce sera la minute pour conclure. Donc, ce qu'on peut dire, c'est pensez-y, prévoyez vos processus, les impacts les plus critiques. Essayez de documenter le plus possible vos savoirs inclus, ça, induits, vos savoirs, enfin, les savoirs dans vos têtes. Ne restez pas dans vos têtes, informels. Dans la mesure du possible, identifiez des gens dans vos organisations et challengez tout ça. Faites-vous accompagner, faites-leur passer des tests aussi ou parlez à votre conseil d'administration et sachez que c'est un projet qui est vivant. Et soyez courageux, parce que faire des deuils, ça demande du courage aussi. Mais je pense que c'est pour le mieux. Et aussi, c'est quelque chose de collectif. Ça devient un projet collectif, le projet qui est porté par une équipe nouvelle qui va développer sa propre vision et tranquillement, pas vite, sa propre marque d'organisme et qui va vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Et c'est moi qui vous remercie d'avoir assisté à la conférence. J'espère que ça vous a donné quelques clés, quelques bonnes pratiques. Merci à nos intervenants, Julie, Evelyne, Céline et Alexandre. Merci beaucoup.